bienvenue à toutes et à tous pour cette sixième Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, en collaboration avec Radio Campus, une fédération, l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux, qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Donc après une longue interruption, ce ne sera pas Maxime Traîneau qui présentera cette émission ce soir. Maxime a rejoint l'Université de Nantes pour d'autres aventures. Je tiens à le remercier pour avoir développé notre projet de médiation scientifique à l'Université de Lille et nous lui souhaitons le meilleur pour son nouveau défi. Je reprends donc le flambeau pour ce soir. Je m'appelle Alain Rip. Je suis professeur à l'Université de Lille et responsable de l'axe médiation scientifique du projet CPER Chemact pour l'Institut Chevreul. Ce mois-ci, nous allons parler de recyclage, plus particulièrement de celui des gaines qui entourent le combustible nucléaire et aborder des nouvelles méthodes de recyclage qui pourraient être mises en œuvre à l'avenir. C'est donc avec un très grand plaisir que j'accueille ce soir Ewen Offray.
Bonsoir.
Bonsoir Ewen et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview en direct. Tu es doctorant en troisième année à l'unité de catalyse et de chimie du solide dans l'équipe matériaux inorganiques, structures, systèmes et propriétés, sous la direction de Sylvie Davero, qui est professeur aussi à l'Université de Lille. Donc, ton sujet s'intitule « Recyclage des gaines combustibles nucléaires », mais tu t'intéresses aussi à l'attaque de l'oxyde de zirconium par des sels fondus, et peut-être que tu nous en expliqueras le pourquoi lors de cette interview. Donc, pour commencer, peux-tu nous dire dans quel cadre tu développes tes travaux de recherche ?
Alors, ma thèse s'inscrit dans le cadre de France 2030, donc qui est un gros projet du gouvernement qui regroupe plusieurs projets d'avenir, comme c'est appelé aujourd'hui dans la recherche, et qui vise à développer des sujets pour le futur de la France d'ici 2030. Et donc mon sujet s'inscrit plus particulièrement dans un projet qui s'appelle le projet Regain, qui veut dire tout simplement recyclage de gaines nucléaires, et qui vise à recycler, comme vous l'avez dit, les gaines de combustible nucléaire en vue de leur stockage à l'avenir sur le site de Cigéo.
Et donc, pour commencer, donc, pourrais-tu nous expliquer l'importance d'une gaine de combustible nucléaire dans un réacteur et comment l'irradiation, en fait, impacte les alliages métalliques de celle-ci ?
Tout d'abord, la gaine de combustible, vous l'avez rapidement évoqué précédemment, sert à contenir le combustible nucléaire, donc qui va être sous forme d'oxyde d'uranium ou un mélange d'oxyde d'uranium et oxyde de plutonium. Cette gaine de combustible en fait permet dans un premier temps de faire barrière à la diffusion de tout ce qui est produit radioactif qui peut être dégagé du coup pendant la réaction, et cette gaine fait aussi office de contenant du coup pour le combustible au cœur de la réaction. Sinon, comment elle est impactée du coup par l'irradiation ? Elle est impactée de plusieurs manières, à la fois du coup dans sa structure, où du coup on va avoir une diffusion des produits dans le matériau. Ça va jouer du coup sur les propriétés mécaniques du matériau. Ça va venir possiblement créer dans le cadre chimique des nouvelles structures et des oxydes dans mon cas. Ça va modifier la structure globale du matériau.
Et donc, comment est conçu le recyclage de ces gaines aujourd'hui ? Et donc, quels sont les principaux défis à relever pour rendre celui-ci plus efficace à l'avenir ?
Alors aujourd'hui, les gaines de combustible ne sont pas recyclées. Pour le moment, on arrive en France à recycler le combustible nucléaire. Donc qui de base est de l'UO2 qui après cycle du coup est retraité par un procédé qui s'appelle le procédé Purex. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder plus en détail, et qui conduit ensuite à la fabrication du coup après récupération de plutonium et d'uranium issu du combustible usé à la fabrication d'un nouveau combustible qu'on appelle le MOX pour réutilisation.
Donc UO2 et MOX qui sont ?
Alors le MOX c'est de l'UO2 et du PUO2. C'est un mélange des deux.
Donc oxyde d'uranium et oxyde de
plutonium.
De plutonium.
Pardon, j'ai l'habitude d'utiliser les noms des éléments comme ça, désolé. Et donc du coup, les gaines pour le moment ne sont pas recyclées et sont pour le moment entreposées dans les piscines, donc avec le reste de l'assemblage de combustible, en attendant de pouvoir être retraitées et à l'avenir stockées sur le site du coup de Cigéo, qui est lui aussi en développement, qui va être un site où on va venir stocker les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, donc qui sont deux catégories de déchets nucléaires les plus problématiques aujourd'hui, en stockage géologique, donc en profondeur. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça sera dans la Marne, possiblement. Voilà.
Et est-ce qu'on connaît à peu près la masse de gaines, donc de zirconium à recycler ?
Bah, il faut, alors la masse, je ne pourrais pas vous la dire exactement. Après, un crayon, il faut savoir que ça fait 4 mètres de haut, environ 2 cm de diamètre. Et donc vous avez ça sur 4 mètres et vous avez ça, vous avez 270 crayons par assemblage. Et alors le nombre d'assemblages qu'il y a dans un cœur, je ne pourrais pas vous le dire, mais il y en a beaucoup. Ça serait... Je pense que ça se compte en tonnes, ouais.
Donc on le stocke depuis les années 70, tous ces crayons ou
Pour le moment, oui, c'est stocké, oui. Enfin, c'est entreposé, si vous voulez, parce que quand vous sortez votre cœur après exploitation, tout est très chaud. Donc du coup, il y a tout un temps de refroidissement en piscine qui est mis en place. Donc, vous avez des piscines de stockage sur divers sites en France, en attendant de retraiter du coup ce qui a, enfin de retraiter tout ce qui est matériaux et cœur. Si vous voulez, le combustible est dès le départ séparé de cette partie-là et avant retraitement.
Et donc, quels sont les principaux défis à relever pour rendre ce recyclage plus efficace, puisqu'il n'existe pas, ou enfin, donc efficace ?
Bah, donc, du coup, le défi, c'est de trouver un moyen de recycler, enfin, du moins partiellement, au moins, ces déchets, parce qu'en en fait, on ne peut pas éliminer totalement la radioactivité. Ouais. Liés à ces déchets pour le moment. Donc l'idée, ça va être de réduire la taille, si vous voulez, de ce que constitue le déchet à proprement radioactif, et de l'autre côté, de venir récupérer les matériaux d'enjeu, comme par exemple le zirconium, si possible, pour éventuellement le réutiliser pour la fabrication de nouvelles gaines, et donc du coup, créer un cycle. Déjà qu'on a un cycle avec le combustible, créer un cycle cette fois avec les éléments de l'assemblage.
D'accord, merci. Et donc, dans le cadre de ta thèse, en fait, peux-tu nous expliquer quelles sont les méthodologies et ou techniques que tu utilises ? Et est-ce qu'elles sont particulières, en fait, au domaine de l'étude des matériaux utilisés dans le domaine du nucléaire ?
Alors, pour le traitement de ces gaines, aujourd'hui, enfin, moi, je m'intéresse plus au traitement du coup d'un oxyde. Donc, j'en ai parlé, donc, qui est un élément de la gaine à retraiter. J'utilise les sels fondus. Donc, les sels fondus, c'est des milieux qui ont plusieurs avantages pour le recyclage, mais pas seulement le recyclage des déchets nucléaires. Donc, ces milieux ont des forts pouvoirs de dissolution, sont stables à la radiolyse, donc ça va venir nous intéresser pour le nucléaire, et peuvent faire aussi, pour le nucléaire, office de matrice de séquestration, ce qui peut être intéressant à la fin pour confiner les radionucléides et autres produits radioactifs. Après, les sels fondus donc, ont beaucoup de possibles applications dans le recyclage. Donc moi, je travaille sur l'oxyde de zirconium, comme vous l'avez dit, contaminé nucléairement, mais ça peut aussi s'appliquer sur d'autres céramiques technologiques. J'ai des collègues qui travaillent sur d'autres sujets, comme par exemple le recyclage de technologies utilisant des terres rares. Enfin, il y a beaucoup d'applications possibles.
Quand tu dis sel fondu, c'est pas du sel de cuisine.
Non, c'est pas du sel de cuisine. Bah, au final, pour les gens qui ont du mal à situer ce qu'est un sel, en fait, un sel, c'est une espèce qui est composée de d'ions. Donc, par exemple, le sel de cuisine, vous avez l'ion sodium, Na, et l'ion chlorure, sel moins, qui viennent s'assembler et former votre sel de table. Après, si vous prenez le sodium et le chlorure séparément, vous avez quelque chose de totalement différent et de très dangereux pour la santé. Mais assemblé, ce qui est rigolo, c'est que ça donne quelque chose de totalement inoffensif. Dans mon cas, c'est des sels différents du coup du sel de table, qui sont beaucoup plus corrosifs, qu'on ne peut pas manger du coup, mais qui sont intéressants pour mes applications.
Et donc, ces techniques, ces méthodologies, elles sont spécifiques aux matériaux du nucléaire ou, en fait, on peut les utiliser dans d'autres domaines ?
La technologie du sel fondu ?
Oui.
Oui,
l'as un peu dit, mais si tu peux développer.
C'est applicable à plusieurs applications. Donc, si vous voulez, je peux vous donner des exemples liés à mes collègues en termes de recyclage. Sans rentrer dans les détails, j'ai des collègues qui travaillent sur le recyclage des aimants permanents. Qui utilisent du coup des sels fondus pour dissoudre leurs aimants et récupérer possiblement des terres rares, donc qui sont des matériaux à enjeu aujourd'hui. J'ai d'autres collègues qui ont travaillé sur le recyclage de déchets tels que vous voyez les gants en néoprène ou autres avec d'autres types de sels. En fait, vous avez une grande variété de sels existants. Dans mon cas, si vous voulez, vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Vous avez les chlorures, les sulfates, les hydroxydes, vous avez plein de sels différents et chaque sel a ses spécificités. Et en fait, en combinant ces différents sels, vous allez et les différents traitements, vous allez réussir progressivement, possiblement, à retraiter votre déchet et à récupérer les éléments qui vous intéressent.
D'accord. Et donc, quand tu dis sel fondu, en fait, il faut monter à des températures. C'est pas dans l'eau, c'est il faut monter à des températures importantes ou
Alors, ça va dépendre du sel. Donc, vous avez des sels qui vont fusionner à des températures relativement basses. L'intérêt, nous, qu'on avait à travailler avec des sels fondus, justement, c'était qu'on n'était pas forcément obligé de travailler à des températures très hautes, notamment pour le zirconium. Donc, il faut savoir que la zircone, par exemple, a une température de fusion autour des 2800 degrés. Donc, c'est quand même assez élevé. Et avec mon sel, on arrive à travailler à des températures autour de 500 degrés. Donc, oui. On est quand même beaucoup plus bas.
Donc, une grosse économie d'énergie,
oui.
En fait. D'accord. Donc, c'est un peu l'enjeu aussi de la thèse, c'est de faire des économies d'énergie sur ces process qui, autrement, ne seraient peut-être pas rentables.
Oui. Enfin, y a une part d'intérêt là-dedans aussi, oui.
D'accord. Et tu utilises du plutonium, tu parles de plutonium, d'uranium. Tu utilises des composés radioactifs ou
Alors, moi, je n'ai pas le droit d'utiliser les déchets directement sortis de l'exploitation. Par contre, j'utilise des simulants donc qui vont se comporter chimiquement de la même façon que les éléments qu'on va retrouver dans la gaine contaminée pour pouvoir étudier l'impact de ces éléments sur la réaction que j'étudie. En l'occurrence, par exemple, pour le plutonium, je vais pouvoir le simuler avec du cérium ou du néodyme, qui sont des simulants très souvent utilisés pour ce genre de simulation.
Et enfin, est-ce que tu peux partager une réussite ou une découverte dont tu es particulièrement fier au cours de ta thèse ? Est-ce que tu as réussi ton recyclage, par exemple ?
Alors, pour le moment, j'ai réussi mon recyclage, j'ai réussi à faire un cycle avec ce que j'ai à faire, donc c'est-à-dire autour de la zircone. Pour le moment, c'est pas encore totalement optimisé à l'échelle laboratoire, mais j'ai espoir qu'à l'avenir, j'arrive à optimiser ça et qu'ensuite, ça soit transposé à des échelles plus grandes et que ça permette, dans quelques années, de vraiment recycler les gaines.
Et donc, c'est bien à l'échelle du laboratoire, pour le moment, on n'en est pas encore aux demi-grands et voir à l'exploitation de ces processus de recyclage.
Il y a d'autres parts du projet, en fait, si vous voulez, enfin d'autres tâches qui s'occupent de ça, mais ce n'est pas mon rôle à moi.
D'accord. Donc, merci Ewen pour ces premières réponses. Je vous propose donc de faire une petite pause musicale avec un morceau donc, que tu as choisi, Ewen, Are You Gonna Be My Girl, donc, du groupe Jet. Et donc, peux-tu nous dire pourquoi ce morceau ?
L'anecdote est un peu toute bête. C'est juste parce que quand j'étais petit, j'avais l'habitude de dîner tous les soirs avec mon père dans la cuisine parce qu'on n'avait pas la télé dans la cuisine et on mettait la radio. Ou la musique que lui écoutait, on a souvent écouté Jet, et du coup j'ai pensé à ça.
Me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Après cette pause musicale très radioactive, donc de retour pour la deuxième partie de la matière radio numéro 6, toujours en compagnie de Ewen, donc doctorant en troisième année à l'unité de catalyse et de chimie du solide. Donc là, dans cette deuxième partie, Ewen, je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et tes motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Première question, quelles études as-tu suivies pour arriver au labo, à l'unité de catalyse et de chimie du solide?
Alors, pour arriver en chimie, j'ai fait des études un peu bizarres, vont dire certains chimistes. J'ai fait tout d'abord une classe préparatoire, du coup, aux grandes écoles maths physique, donc qui n'était pas vraiment orientée vers une suite vers la chimie. Mais en fait, quand j'ai fait cette classe prépa, j'ai réalisé qu'en fait, je préférais la, la physique-chimie aux maths. Et donc, j'ai changé de direction après la prépa et j'ai intégré du coup l'école de chimie de Lille, donc qui est ici sur le campus de Cité Scientifique. J'ai suivi du coup le cycle ingénieur spécialité matériaux là-bas et j'ai réalisé aussi un master 2 du coup matériaux inorganiques pour l'énergie et l'environnement, donc dirigé par ma directrice de thèse actuelle, Sylvie Daviro, pour finalement finir en thèse ici à l'UCCS.
Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une thèse et de choisir ce sujet en particulier, en fait ?
Alors, de base, je ne partais pas forcément sur une thèse dans mon plan de vie. En projet challenge, du coup, en master 2, donc c'est des projets qui sont organisés dans le cadre du master pour valider et pour faire des premiers des essais, si vous voulez, de recherche. J'ai commencé un peu à travailler sur les sels fondus. Et c'est un milieu qui m'a assez vite intéressé. Et au même moment, on m'a proposé un sujet de stage en rapport avec ça. Donc j'ai postulé directement. Donc ce sujet était mon sujet actuel. Du moins, la première partie qui visait à élire un sel capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai accroché avec le sujet et j'ai décidé de continuer en thèse lorsqu'on m'a proposé de
et donc, tu as découvert ton sujet en master. Et
ouais,
donc,
c'est ça. Du coup, pendant mon stage de master 2, j'ai appris, en fait, si vous voulez, à réagir vis-à-vis de mon sujet et à travailler avec les différents composés que j'utilise au quotidien maintenant. Et j'ai bien aimé ce que j'ai fait et j'ai trouvé le sujet important, en fait, et intéressant. Du coup, je me suis investi pleinement dedans et je me suis dit, je vais rester en thèse.
D'accord. Et c'est de la recherche partenariale ou il y a des partenaires avec l'unité de catalyse et de chimie du solide ou,
Bah, le projet Regain, du coup, il implique, j'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais il implique quand même pas mal d'acteurs. Donc, on trouve le CNRS donc, qui m'emploie, Orano, le CEA, Framatome, donc plusieurs acteurs du nucléaire, parce que c'est un vrai projet en jeu pour l'industrie nucléaire. Ouais.
D'accord. Excuse-moi de t'avoir coupé.
Pas de souci.
Donc, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer au quotidien comment se passe ton travail
Alors, mon travail, si on veut parler de ma journée type, il n'y en a pas vraiment en recherche, en fait. C'est plus en fonction de ce qu'on a à faire qu'on va s'organiser. Donc, il y a des jours où on va faire des manips toute la journée. On peut rester toute la journée au labo, manipuler pendant 10 heures au total. Et le soir, on est complètement cramé, si je puis dire, et il y a d'autres moments où on va avoir des rapports à rédiger, donc du coup on va plus être sur l'ordi. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'il y a à faire. C'est pas du tout répétitif. Bon, peut-être un peu plus quand on arrive vers le bout et on doit vraiment rédiger le manuscrit, mais du point de vue expérimental et recherche, il y a vraiment une grande variété de choses à faire. On est souvent amené à utiliser plusieurs types de techniques d'analyse, plusieurs appareils, et on apprend beaucoup de choses au fil de la thèse.
D'accord, donc c'est quasiment pluridisciplinaire.
C'est ça. Moi, de base, je suis chimiste des matériaux, mais au final, je fais de la chimie des solutions avec mes analyses de solutions. Je fais de la chimie des poudres. Je fais des traitements thermiques. Je fais des études de corrosion, donc ce qui est de base ma formation. J'ai fait beaucoup de choses différentes pendant mes 2 années déjà passées.
Et donc, est-ce que tu participes à des congrès ou est-ce que tu as participé à des congrès ou des réunions pour partager tes travaux? Et dans ce cas, comment tu te prépares à cet exercice, s'il y a une préparation? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un accord de tous les acteurs. Donc,
Du coup, il y a un accord du coup, de la direction du projet en fait, qui est à faire avant de faire un gros congrès. Souvent, je n'ai pas le droit de parler de manière détaillée de mon sujet parce que la plupart des éléments principaux restent confidentiels. Après, j'en ai déjà fait plusieurs. Je ne parle pas forcément de mon sujet dans le sens nucléaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aussi servir pour le recyclage d'autres oxydes. Donc, j'ai déjà parlé de ça comme possible suite à mon travail. Et comment je me prépare? Je prépare ma présentation, mon texte. J'ai tendance à répéter dans un premier temps de mon côté. Et après, j'ai plusieurs réunions avec mes encadrants qui visent à optimiser le temps que je passe sur certaines parties et les choses que je dise ou que j'ai possiblement oubliées à rajouter. Donc ça a fait office de 2-3 répétitions avant un congrès. Après, niveau stress, j'ai cet avantage de, dans la vie, être relativement zen. Enfin, je m'énerve souvent, les gens vont dire, mais je suis zen quand je présente. Voilà.
Et donc, bon, oui, parlant de stress, donc, bon, visiblement, toi, tu ne stresses pas, mais tu n'as pas le stress du doctorant, quoi, dont on entend souvent parler.
En fait, on va quand même l'avoir. Par exemple, quand vous êtes sur des grosses réunions et que vous allez présenter devant les chefs, vous avez peur que votre résultat il soit pas à la hauteur de ce qu'attendent les chefs. Mais présenter mon travail devant des gens qui n'ont pas connaissance, par exemple des sels fondus ou autres, ça va moins m'inquiéter parce que je me dis je vais leur partager ce que je fais tous les jours. Je connais mon sujet et je partage mes connaissances, donc peut-être que je vais aider quelqu'un à avancer ailleurs. Ou... Voilà, c'est la science, ça passe aussi par le partage des...
Donc tu as déjà un pied un peu dans la médiation scientifique et dans le partage de tes travaux, etc. Donc, est-ce que tu as participé, par exemple, aux journées pour la science ou à des journées ouvertes?
J'ai déjà fait, comme congrès que je pourrais citer, j'ai fait le congrès de la SCF. Même si dedans, je ne me sentais pas tellement avec des gens qui faisaient la même chose que moi, j'ai quand même présenté ce que je faisais. Après, j'ai déjà été aussi...
La SCF, c'est...
La SCF, c'est la Société Chimique de France. Pardon, je ne l'ai pas précisé.
Donc, c'est une société savante. Hein.
C'est une société qui regroupe une grosse partie de la communauté des chimistes de France et où il y a beaucoup de sujets différents qui sont abordés pendant les regroupements.
D'accord. Et donc là maintenant, quels sont tes projets donc après l'obtention de ton doctorat? Et tu envisages plutôt de poursuivre dans une carrière académique ou de travailler dans l'industrie?
Du coup, ça c'est une question qui est difficile pour moi, mais qu'on me pose assez souvent en ce moment parce que j'approche du coup de ma dernière année de la rédaction et c'est des choses qu'il faut que je commence à me demander. Du coup, j'aime bien la recherche en elle-même, dans le sens où j'aime bien trouver des choses, répondre à des questions. C'est parfois un peu compliqué de s'épanouir pleinement dans la recherche. Du point de vue, je vais parler d'un...
Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as un exemple de s'épanouir dans la recherche, qu'est-ce que tu entends dans ce propos?
J'entends le fait que, c'est plus le cadre de travail qui m'énerve. Parce que, en fait, j'aime beaucoup mon labo, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais il y a beaucoup de procédures qui, pour moi, paraissent très simples, qui, dans le public, du coup, dans la recherche publique, traînent. Et c'est relativement fatigant de perdre beaucoup de temps sur son temps de travail à devoir résoudre un peu des problèmes à droite à gauche qui de base ne sont pas les principaux sur lesquels on travaille. Et j'ai tendance à trouver, ayant aussi travaillé dans la R&D privée, que parfois l'administration dans le privé a tendance à aller plus vite et donc du coup on perd moins de temps. Après, il y a un contre aussi le privé. Là où j'avais travaillé, on ne me donnait pas tous les tenants et les aboutissants de ce que je faisais, et donc je ne comprenais pas forcément tout ce que je faisais, et ça, j'y suis très attaché. Du coup, j'ai un peu du mal à me décider sur ce que je vais faire.
Ouais, mais peut-être que tu n'avais pas tous les degrés de confidentialité nécessaires à...
C'est possible aussi, mais après, ça joue aussi, par exemple, sur votre sécurité en tant que salarié. Tout ça, moi, c'est des choses que je négligeais pas et on m'a pas, par exemple, on ne m'a pas donné de fiche de sécurité, rien. D'accord. On m'a donné les bouteilles, on m'a dit t'essayes et puis surtout que je travaillais sur des solvants. Donc, c'est pour les chimistes qui m'entendent, ils savent que les solvants, ce n'est pas toujours les meilleures choses à respirer ou autre. Donc, il fallait que je fasse attention.
Okay. Et c'était quand même dans un cadre bien
Défini. Bien structuré, oui, quand bien même. Mais...
Et donc, pour finir, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui envisagent de faire de la recherche ?
Déjà, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien réfléchir avant de se lancer dans la recherche, ou en l'occurrence dans une thèse, comme c'est mon cas. Parce que j'ai vu plusieurs thésards pendant ces 3 années où j'ai été à l'UCCS ne pas aimer ce qu'ils faisaient, et donc du coup venir au bout d'un moment en subissant la thèse plus qu'en appréciant ce qu'ils faisaient. Et en fait, si dès le départ vous aimez pas ce que vous faites, vous lancez pas dans la thèse, parce que vous allez souffrir plus que profiter, ou du moins apprécier ce que vous allez avoir comme résultat. Si ça vous intéresse pas, c'est pas bénéfique pour vous. Autrement, j'avais un autre conseil. C'était
le premier conseil, c'est bien choisir son sujet de thèse en adéquation avec ce que l'on veut.
Oui, bien réfléchir avant de se lancer dans un gros projet de recherche. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est ne pas avoir peur des fois de se lancer dans certaines manips, certains projets. Ne pas hésiter à demander, en fait, parce que vous, par exemple, vous dites « Ah bah ça, je sais pas faire, je vais pas le faire », ça me fait peur, et au final, plus tard, vous vous dites « Ah bah j'aurais dû le faire », vous allez regretter. Alors qu'en allant, ici, il y a beaucoup de spécialités différentes, vous allez facilement trouver, en l'occurrence en chimie, des personnes qui vont pouvoir possiblement répondre à votre question, et vous allez pouvoir mettre en place votre manip, et après, vous avez fait votre manip, ça se trouve, ça va vous donner des résultats dont vous serez très fiers, c'est mon cas. Au moins, à l'avenir, vous ne le regretterez pas et vous serez pleinement...
Donc, c'est d'être un acteur engagé dans sa thèse, en fait,
ouais,
dans ce sujet.
Il ne faut pas hésiter à s'impliquer à 100%.
OK. Donc, merci, Ewen, pour toutes ces réponses. Donc, merci à René d'avoir assuré la régie, et donc à Radio Campus pour nous donner l'occasion de cette émission mensuelle. Donc, on se donne rendez-vous au mois de janvier pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.